Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. La révolution numérique a transformé et décuplé les capacités de communication. Ce faisant, elle a aussi littéralement bouleversé les rapports que les États entretiennent entre eux et avec leur société et créé des vulnérabilités nouvelles susceptibles de compromettre le fonctionnement de la démocratie. Aujourd'hui, plus que jamais, la puissance des États se fonde sur le contrôle de l'information et leur capacité à influencer les audiences extérieures et à diffuser leur interprétation du monde. Comment différents États démocratiques ou autoritaires se servent-ils de l'information pour accroître leur influence et redessiner les équilibres de pouvoir sur la scène internationale? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. En studio avec moi, Maud Kessard, directrice du domaine Espace Euratlantique à l'IRSEM, maître de conférences et spécialiste de politique étrangère américaine et co-directrice avec Céline Maranger des guerres de l'information à l'ère numérique, paru aux presses universitaires de France. Bonjour.
Bonjour Marie-France Chatin.
Par téléphone, Frédéric Douzet, professeur des universités à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8 et directrice du projet géopolitique de la datasphère, Géode. Bonjour.
Bonjour.
Et Maxime Audinet, chercheur à l'IRSEM, spécialiste de la politique d'influence russe à l'ère post-soviétique. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, le constat qui est celui que les manipulations de l'information ont toujours existé. Au siècle dernier, elles étaient déjà très présentes, particulièrement durant la période de guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Quelles ont été les trajectoires de ces deux pays, donc les États-Unis, aujourd'hui la Russie, en matière de manipulation de l'information et particulièrement avec l'avènement de l'ère numérique, Maud Kessard?
On assiste vraiment avec l'avènement de l'ère numérique à une forme de rupture stratégique, hein, qui est marquée surtout au tournant des années 2000 avec l'avènement des plateformes. Et ce que vous rappeliez, Marie-France Chatin, qui est particulièrement intéressant et qu'on a voulu montrer dans cet ouvrage, ce sont les phénomènes de circulation et de reproduction entre finalement cette machine incroyable qui a été la machine de propagande soviétique, ensuite copiée par réaction par les États-Unis, puisque un de nos auteurs, qui est un grand spécialiste donc de ces questions de propagande sur le long XXe siècle, qui est Nicolas Skull, nous rappelait que finalement il n'y aurait jamais eu de grande machine de propagande états-unienne sans Staline et sans son système de propagande. Je trouve cette remarque particulièrement juste et qui illustre peut-être aussi une des idées qu'on a voulu montrer dans l'ouvrage. Donc effectivement, après, en arrivant à cette rupture du XXIe siècle, on observe que la grande machine de propagande russe s'inspire beaucoup aussi de ce qu'ont pu faire les Américains pendant toutes les années 90. Donc il y a ce phénomène de circulation qui est très intéressant jusqu'à ces dernières années où la Russie apparaît comme particulièrement offensive dans ses stratégies de guerre de l'information numérique et appelle de nouvelles stratégies de la part de son principal adversaire sur le ton long, qui est les États-Unis.
Donc un jeu de miroir finalement, Maxime Audinet, entre l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide, la Russie aujourd'hui et les États-Unis. On imagine aisément combien le numérique a dû multiplier les manipulations de l'information. Est-ce que elles sont aussi, en même temps qu'elles se sont multipliées, plus graves, Maxime Audinet?
Alors, la question de la gravité, peut-être, elle doit être liée probablement à la question de l'ampleur, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette question de la comparaison avec la période soviétique, qui est sans doute probablement de l'ordre du contenu, c'est-à-dire on a toute une série de récits, de représentations issues de la guerre froide qui sont réinvestis à l'époque post-soviétique. Je pense notamment à la question de tout ce creuset anti-impérialisme, anti-occidental, qui est beaucoup utilisé par les différents instruments de l'influence informationnelle russe. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que précisément, c'est au moment des révolutions de couleur au milieu des années 2000, c'est-à-dire en fait par opposition aux influences occidentales dans ce qu'elles considèrent comme sa sphère d'influence, que la Russie met en place toute une série d'instruments, d'abord dans des champs traditionnels et puis effectivement plus tard dans le champ numérique, en particulier au moment de la crise ukrainienne, qui a en fait été le théâtre de cette utilisation d'instruments informationnels dans le champ numérique, en particulier avec cette question de la désinformation en ligne, des fermatrolls qui plus tard ont été utilisés effectivement au sein même des écosystèmes et des réseaux numériques occidentaux, comme ça a été le cas aux États-Unis ou en France par exemple pendant les périodes électorales.
Alors, il sera tout à fait intéressant d'essayer de comprendre quels sont les objectifs à la fois de la Russie et des États-Unis et puis les autres. On va voir aussi comment la révolution numérique a aussi redistribué la puissance dans le monde. Frédéric Douzat, un commentaire sur ce qui s'est dit jusqu'à présent?
Moi, je crois que ce qui est intéressant de voir, c'est puisqu'on a toute cette expérience de la guerre froide, des manipulations de l'information, c'est à quel point finalement, à l'ère numérique, une manœuvre informationnelle est apparue comme une énorme surprise stratégique. Si on regarde ce qui s'est passé au moment de l'élection américaine de 2016, on voit très clairement que l'administration américaine n'a absolument pas vu venir la menace, comme si finalement tout cet héritage de la guerre froide n'avait pas été pris en compte. Et je pense que la représentation que se faisaient les Américains des menaces liées à la révolution numérique et au cyberespace était très centrée sur une menace technique, sur une menace militaire, alors que la représentation que peuvent avoir les Russes de l'espace numérique, c'est d'abord un espace informationnel. Il n'y a pas vraiment de distinction entre la menace purement cyber et la menace informationnelle. Et c'est finalement une manœuvre hybride, avec une combinaison de méthodes, une attaque cyber sur les emails du Parti démocrate, combinée à la publication en ligne de ces emails pour avoir un effet stratégique, et puis les fermatrolles qu'évoquait Maxime, qui ont eu finalement un impact, en tout cas médiatique, parce que l'impact sur l'élection elle-même est difficile à mesurer, qui a pris complètement de court l'administration américaine qui n'a pas vu arriver cette menace. Donc c'est intéressant de voir que même si on a cet héritage stratégique, il n'est pas forcément pris en compte dans l'analyse de la menace.
Alors j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Frédéric Douzat, les États-Unis qui n'ont pas vu venir la menace dans le cadre des élections présidentielles américaines de 2016, qui ont vu donc Donald Trump prendre le pouvoir. Il y a, Maud Kessar, quant aux enjeux informationnels, et ça c'est l'une des grandes surprises, qui ressort de l'ouvrage, finalement, une prise de conscience relativement récente. À la fin de la guerre froide, il y a seulement quelques États d'Europe centrale, nordique et orientale qui restent vigilants. Mais entre la fin de la guerre froide et 2016, de voir combien finalement les États-Unis étaient assez peu préparés, c'est un grand étonnement.
Je pense que c'est un étonnement relatif. Et Frédéric Douzat rappelait qu'il y a eu cette forme de surprise stratégique parce qu'on est sorti du champ militaire pour venir dans le champ civil, celui du contexte électoral. Donc la surprise est d'autant plus forte. Maintenant, ça ne veut pas dire que la guerre de l'information a été suspendue entre la fin de la guerre froide, le début des années 90 et 2016, absolument pas. Et il y a d'autres acteurs, les acteurs militaires qui sont très présents dans l'ouvrage, qui eux sont très attentifs justement à cette guerre de l'information en continu et qui considèrent justement avec la première guerre du Golfe qu'on a déjà un passage à une forme de rupture un petit peu dans les guerres de l'information.
1991.
Tout à fait, en 91. Donc c'était un point d'étape qui marque le passage finalement une forme de numérisation de la guerre informationnelle. Donc tout dépend des acteurs dont on parle. Quand on parle des acteurs politiques, dans le cadre de l'élection de 2016, effectivement, ceux-là, les acteurs américains ont été particulièrement surpris et il y a eu beaucoup d'auditions au Congrès pour revenir comment ça se fait que les outils de la guerre froide, on ne peut pas les restaurer, ils ne sont pas adapté à ces nouvelles guerres de l'information. Ça, tout à fait. Mais pendant ce temps, il s'est quand même passé un certain nombre d'autres actions et d'autres activités. Et les Américains ne sont pas quand même complètement tombés de leur chaise sur le fait qu'on soit passé une numérisation de la guerre de l'information sur des théâtres d'opérations, comme par exemple la guerre contre Daesh. Donc simplement, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce que certains adversaires utilisent ces armes-là pour venir porter atteinte au territoire national. Et ça, c'est différent. Et c'est ce qui change aussi par rapport à la guerre froide. C'est que pendant la guerre froide, on avait effectivement une compétition technologique très importante, une course à l'information aussi. Mais on n'attaquait pas finalement sur le territoire véritablement national de l'adversaire de cette manière-là.
Alors, cette question à propos des élections américaines de 2016, celle notamment de savoir est-ce que la Russie était derrière. La Russie ou Facebook, peut-être, Maxime Audinet, et ça me permet aussi de reprendre la question que posait Frédéric Douzat sur la représentation des Russes de l'espace numérique. Est-ce que l'on peut en dire au jour d'aujourd'hui ?
Justement, je crois que ce que disait Frédéric est important, c'est-à-dire qu'il y a une conception en fait totale du champ informationnel. à la fois dans ses couches basses physiques, protocolaires, et puis dans ses couches hautes qui sont celles des contenus. Et je crois que la Russie, en fait, comme d'ailleurs la Chine, probablement plus précocement que un certain nombre de démocraties libérales occidentales, a pris conscience que cette guerre de l'information était probablement avant tout une guerre de récits, hein, une sorte de contenu narratif qui se jouait effectivement dans cet espace informationnel, à la fois dans un champ médiatique traditionnel et puis sur les réseaux sociaux, en particulier les grandes plateformes occidentales, dont Facebook, dont Twitter, bien évidemment, ou avec un certain nombre de moyens. Donc ça peut aller de ce qu'on appelle la diplomatie numérique, on en reparlera peut-être aussi dans le cadre de la Chine, avec des officiels russes ou chinois qui vont être beaucoup plus offensifs via leur compte Twitter, par exemple. Ça peut passer par des fermatrolls, ou ce que les Chinois qualifient de ferme de contenu, donc c'est-à-dire aller pourrir une conversation pour polariser une communauté en ligne, par exemple. Et puis ça peut passer aussi par la propagation via ces réseaux numériques de toute une série de contenus médiatiques qui vont être produits par des grands acteurs médiatiques transnationaux. Je pense par exemple, dans le cas de la Russie, à RT et Sputnik, qui ont une très forte présence à la fois en tant que site internet et puis évidemment avec un écosystème de comptes en ligne très important, qui sont à la fois propagés par eux-mêmes, bien entendu, mais aussi par une série de relais plus ou moins clandestins ou plus ou moins ouverts qui vont participer en fait à la promotion de ces récits justement qui sont peut-être positifs dans le cas de la Chine, mais dans le cas de la Russie, et c'est peut-être sa particularité de son action dans l'espace informationnel, avec une influence qui est aussi extrêmement incisive, voire négative, qui cherche davantage à dénigrer l'adversaire, et en particulier les pays occidentaux, plutôt que de promouvoir une image positive de la Russie. En tout cas, depuis la fin des années 2000.
Ce sont des éléments qui distinguent la politique chinoise de la politique russe en matière de guerre de l'information. Une question pour vous, peut-être, Frédéric Douzet, alors qu'on pouvait imaginer finalement qu'il y avait une certaine homogénéité entre les stratégies des pays autoritaires et les démocraties, Frédéric Douzet.
Je ne parlerai pas d'homogénéité, en tout cas, dans les méthodes, nécessairement dans les objectifs. Il y en a dans une sorte de communauté de représentation de cet espace comme un espace informationnel et une importance de la sécurité, finalement, de l'information et de l'importance stratégique de l'information qui ont poussé la Chine, par exemple, à développer son Internet de manière à pouvoir le contrôler d'emblée et avec une même représentation de la menace qui peut arriver par les récits qui étaient évoqués par Maxime. Sur les méthodes, on pourra y revenir, mais on n'est pas dans les mêmes méthodes, même si on voit certaines évolutions. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette représentation est complètement différente de celle du monde occidental. Et pour revenir deux secondes sur ce que disait Maud Kessar, je suis parfaitement d'accord avec elle, mais on a une manière de penser qui est relativement cloisonnée dans les communautés stratégiques, ce qui fait que même la surprise stratégique qu'a constitué la menace Daesh et la propagande en ligne n'a pas forcément conduit à imaginer la menace de déstabilisation des sociétés et de la démocratie que pouvait constituer la manipulation d'un récit dans un contexte électoral. Donc c'est là que s'est constituée la surprise stratégique, et je pense que un des phénomènes qu'on observe dans ce domaine-là, qui est des enjeux stratégiques liés à la révolution numérique, c'est vraiment cette diversité des cibles, des méthodes, des objectifs. Et on voit très bien comment, ben maintenant, ces manœuvres, elles peuvent toucher des questions électorales, elles peuvent pousser à de la radicalisation, mais qui va prendre différentes formes. On a vu la radicalisation terroriste, mais aussi beaucoup la radicalisation politique, notamment dans le contexte actuel. Et dans la compétition stratégique que se livrent les grandes puissances actuellement, on voit bien que l'exploitation des vulnérabilités des sociétés démocratiques est un levier majeur dans ces stratégies.
Alors, Maud Kessar, un commentaire sur ce que Frédéric Douzet vient de dire. Donc, diversification des cibles, des méthodes, absolument, avec pour objectif les démocraties.
Oui, puis je dirais, pour les observateurs et les cellules de veille institutionnelles américaines, ce qui est très frappant, c'est qu'on a une multiplication des écosystèmes de propagande. Les Américains se sont focalisés pendant trop longtemps sur l'écosystème de propagande russe. tout en étant bien sûr attentif à ce que pouvaient faire les Iraniens, les Chinois ou la Corée du Nord. Mais aujourd'hui, finalement, la principale menace et la principale vulnérabilité vient de ces écosystèmes de propagande qui sont auto-nourris depuis les États-Unis, je dirais même, puisque je pense que Frédéric faisait allusion au contexte de radicalisation fort, donc par exemple avec le phénomène QAnon, qui a son propre écosystème de propagande. Et ce qui est particulièrement frappant dans ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que le fait que cette guerre des récits dont parlait Maxime, ces narratifs sont détournés par les acteurs nationaux. Et donc ça échappe finalement à la diplomatie publique des États, dont il est fortement question dans le livre, particulièrement aux États-Unis. On a un narratif national qui est oublié par son propre président, pour Trump, ou détourné par ses propres acteurs nationaux, dans le cas de mouvements extrémistes au sein des États-Unis, ou encore avec des acteurs privés qui viennent dans ces guerres de l'information, comme les grandes plateformes du numérique, et qui, par effet boomerang, n'aident pas forcément à la promotion du récit national et à la promotion de la démocratie. Enfin, en tout cas, pas toujours.
Donc finalement, si on devait résumer l'état où nous en sommes aujourd'hui dans l'émission, c'est que les menaces ne sont pas forcément et uniquement extérieures. C'est tout de même cela aussi qu'il faut comprendre. Elles sont aussi intérieures de par cette diversification. Alors, j'en viens à ce que je voulais aborder à propos des États-Unis. La suspension des comptes de l'ancien président américain par toutes les grandes plateformes à la suite donc de l'attaque du Congrès par une partie de ses partisans l'a créé un précédent inédit et a soulevé un vif débat. Que révèle cette affaire de la suspension des comptes de Donald Trump? Je ne sais pas qui souhaite répondre.
Frédéric Douzet. Je vais peut-être me prononcer. Oui, je pense que la première chose que ça révèle, c'est qu'effectivement, la menace peut être interne et ça a été très clair pendant la campagne de 2020, où finalement on a vu que le désinformateur en chef sur les modalités électorales et sur l'intégrité du processus électoral, c'était le président lui-même. Et c'est là que c'est intéressant parce que j'ai le souvenir en 2016 du choc de l'administration face à l'ingérence russe. Et ce qui les inquiétait le plus à l'époque, c'était que des opérations puissent semer le doute sur l'intégrité et la sécurité du processus électoral. Or là, on arrive en 2020 et ce doute part de la Maison-Blanche et est propagé par Donald Trump qui, depuis le début de son mandat, parle de faits alternatifs, de vérités alternatives, ce qui discrédite toute l'information de manière générale. Donc ça, je pense que c'est la première chose que ça révèle. Et puis, on a vu pendant son mandat prospérer aussi les théories conspirationnistes. Le mode faisait référence à QAnon. On a aujourd'hui une députée à la Chambre des représentants qui propage les théories conspirationnistes de QAnon. Et une des inquiétudes actuellement dans le milieu des politologues américains, c'est que cette radicalisation politique interne aux États-Unis, conspirationniste et d'extrême droite, soit très sous-évaluée.
Théorie conspirationniste, plusieurs choses par rapport à ça. Ce que je voudrais peut-être aborder rapidement, et après ça on en viendra à la Russie et la question de Alexei Navalny avec vous, Maxime Audinet, voir un peu comment tout cela est utilisé par le pouvoir à Moscou. Mais pour terminer cette première partie d'émission, quelques mots sur ces contradictions auxquelles les démocraties sont aujourd'hui confrontées, avec donc d'un côté empêcher des théories conspirationnistes comme celle du mouvement QAnon de proliférer sur les réseaux sociaux et de l'autre empêcher les réseaux de faire obstacle au débat démocratique en censurant certains utilisateurs. La question, Maud Kessar, elle est très compliquée.
Elle est très compliquée, mais en même temps, il faut qu'elle soit suffisamment claire pour les plateformes, c'est-à-dire qu'elles doivent se positionner. C'est peut-être ce basculement qu'on a pu observer donc début janvier, lorsque les plateformes n'ont plus voulu être finalement des relais d'une puissance étrangère ou d'une ingérence étrangère, mais plutôt comme des acteurs garants de la démocratie et donc retrouver un rôle sans doute plus politiquement correct, notamment plus politiquement correct auprès de la nouvelle administration Biden, donc qui vient d'arriver et qui avait bien les plateformes dans le collimateur. Et en même temps, je dirais que pour une administration démocrate, retrouver une coopération et une collaboration étroite avec les plateformes qui servent aussi le narratif national américain, notamment au département d'État, c'était important. Donc on a eu ce basculement du rôle des plateformes, à voir si les grandes plateformes vont être capables d'assumer en fait ce basculement, notamment en réfléchissant donc à cette question épineuse juridique sur le rôle d'hébergeur ou d'éditeur, un rôle entre lesquels elles elles hésitent et sur lequel il faudra trancher ou prendre en tout cas un recul ou un positionnement assez clair pour se positionner comme acteur du débat démocratique.
On vous retrouve, Maud Kessar, avec Maxime Audinet et Frédéric Douzet après le journal. À tout de suite.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Dans la Russie de Vladimir Poutine, Alexei.
Marie-France Chatin.
Regard sur les guerres de l'information à l'ère numérique. Nous retrouvons nos invités. Maud Kessar, directrice du domaine Espace Euratlantique à l'IRSEM, maître de conférences et spécialiste de politique étrangère américaine et co-directrice avec Céline Maranger des guerres de l'information à l'ère numérique parues aux presses universitaires de France. Frédéric Douzet, professeur des universités à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8 et directrice du projet géopolitique de la datasphère, Géode, et Maxime Audinet, chercheur à l'IRSEM, spécialiste de la politique d'influence russe à l'ère post-soviétique. Maxime Audinet, quelques mots peut-être pour resituer la politique russe aujourd'hui en matière de guerre de l'information. Quels sont finalement les objectifs de la Russie dans ces guerres de l'information? Et quelques mots sur l'actualité avec l'arrestation et la condamnation à 3 ans de prison de l'opposant russe Alexei Navalny, que le pouvoir et le Kremlin voient comme une personnalité soutenue par l'Occident. Là aussi, on est dans la question des narratifs qui sont une partie de ces guerres de l'information, Maxime Audinet.
Absolument. Alors, pour revenir à l'idée d'espace informationnel qu'on abordait, c'est un espace qu'il faut à la fois protéger, en fait, des contenus qui viennent de l'extérieur, et c'est probablement aussi l'une des raisons avancées pour qualifier ce que les Russes appellent la souveraineté informationnelle. Mmh. Et puis en même temps, tout un ensemble d'actions offensives qui vont à la fois défendre la perspective du discours officiel russe et puis éventuellement aussi discréditer, s'infiltrer dans les brèches des sociétés occidentales pour en exploiter les vulnérabilités. Le cas d'Alexei Navalny est extrêmement intéressant puisque, en fait, c'est évidemment un phénomène avant tout interne à la Russie. Et depuis un certain nombre d'années, l'influence informationnelle de la Russie se concentre beaucoup plus sur justement le dénigrement des autres plutôt que l'exposition de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Si bien qu'on s'est retrouvé dans le cas d'Alexei Navalny dans une situation où en fait, je pense en particulier aux médias d'influence internationaux russes, ont été obligés en fait d'en parler de plus en plus. Alors, Navalny n'a jamais été un sujet tabou sur RT ou Sputnik, par exemple. Ça fait des années qu'ils en parlent. Mais on a eu une gradation, en fait, dans la couverture de ce qu'il représente. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on en parlait, on évoquait le fait qu'il était emprisonné. Au moment de son empoisonnement, vous avez eu une série en fait de contenus très contradictoires qui étaient propagés, donc à la fois la version de l'empoisonnement, mais aussi toute une série de versions plus ou moins loufoques sur une histoire d'hypoglycémie ou le fait qu'il se soit empoisonné lui-même. Vous avez toujours aussi l'utilisation d'un registre très relativiste, l'empoisonnement présumé d'Alexei Navalny, c'est des termes qui sont beaucoup employés. Et puis encore plus récemment, avec son retour en Russie et la question de son procès et de son emprisonnement, là je trouve qu'on n'est pas passer à un degré supérieur, en particulier je pense aux versions francophones de ces deux médias, où on a une absence de contextualisation, notamment sur la question des raisons en fait de son emprisonnement, qui sont donc liées au fait que Navalny ne s'est pas présenté au commissariat de son quartier dans le cadre de sa peine avec sursis dans l'affaire Yves Rocher, puisqu'il était en Allemagne à la fois dans le coma et puis en convalescence, qui l'a empêché effectivement de se présenter à Moscou. Donc voilà, et ça c'est des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas présentées, et on a du coup, je trouve, une montée en gamme dans le caractère manipulatoire des contenus qui peuvent être propagés sur le cas d'Alexei Navalny, qui lui-même, et c'est peut-être important de le souligner rapidement, excelle en fait dans l'utilisation aussi de la propagation des contenus sur les réseaux numériques. Il n'apparaît pas, ou en tout cas il ne peut pas participer au débat public dans les médias d'État russes, mais en revanche il a une popularité extrêmement forte sur les réseaux sociaux et en particulier sur YouTube.
Donc toute la perversion du système russe, reprochait à Navalny de ne pas avoir été présent pour ses rendez-vous avec la police alors qu'il était sur un lit d'hôpital en Allemagne. Et vous le dites, et en tout cas c'est intéressant dans le chapitre sur la Russie que vous avez écrit, Maxime Audinet, vous parlez de l'importance qu'accorde la Russie, enfin le pouvoir russe, au terme de diplomatie publique, pour ne jamais parler de propagande. On est dans la diplomatie publique.
Oui, alors c'est une notion qui justement est très liée à la guerre froide. Mmh. Les États-Unis se mettent à l'employer pour précisément ne plus employer le mot de propagande après la Deuxième Guerre mondiale, puisque le terme de propagande est devenu extrêmement négatif, chargé moralement et inutilisable. Et les Russes, en fait, ont mis en place, effectivement, à partir du milieu des années 2000, toute une série d'instruments, d'institutions, dans le cadre de la diplomatie culturelle, dans le cadre des médias, des instruments de diplomatie publique. La Russie, joue sur les deux terrains, c'est-à-dire que c'est pas soit on fait de la diplomatie publique, soit on fait de la propagande. C'est cumulatif, en fait. On peut tout à fait, et la Russie le fait, être dans un registre plus proche de la diplomatie publique. Et puis, en particulier dans le cadre des médias, et lorsque l'image et la réputation de la Russie est en jeu, on peut passer sur des registres plus propagandistes, comme c'est le cas dans le cadre de l'affaire Navalny dont je viens de vous parler.
Maud Kessar, quelques mots, et après ça, on parlera sur les réponses des États pour se défendre contre les manipulations d'informations.
Tout à fait. Ce qui est en jeu avec la diplomatie publique, c'est le risque réputationnel des États. En tant qu'américaniste, bien sûr, je vais faire une distinction entre la diplomatie publique américaine et la diplomatie publique russe. Pour moi, il n'y a pas de diplomatie publique russe. Il y a un terme tout à fait consacré qui est utilisé par les Russes pour parler de l'utilisation des médias d'État. Pour les Américains, après la Seconde Guerre mondiale, quand on parle de diplomatie publique, c'est que l'on distingue d'une part la propagande qui c'est des opérations noires ou grises, alors que le blanc qui relève de la diplomatie culturelle et de l'information officielle, c'est de la diplomatie publique pour communiquer directement avec les populations étrangères. Donc cette distinction, elle est quand même importante pour les Américains, même si au XXIe siècle, on a eu un glissement très intéressant d'une diplomatie publique qui avait pour but de promouvoir un narratif diplomatique à une diplomatie publique qui vient en soutien des opérations militaires depuis les années 2010. Et ce glissement-là, il est particulièrement intéressant dans le cadre des guerres de l'information. Donc, je vous invite à lire l'ouvrage pour en savoir plus.
Alors, justement, sur le chapitre à propos du Royaume-Uni, et je me tourne vers vous, Frédéric Douzet, il est question des mécanismes sous-jacents qui valorisent la désinformation. C'est la capacité à détourner le statut de victime à son avantage. Et l'auteur du chapitre évoque ces nouveaux hommes forts qui défient actuellement le système international en promettant à leurs citoyens que seuls sont en mesure de réparer les injustices passées dont ils ont souffert, et finalement l'idée de rendre la grandeur à un pays rétablit le respect, il s'agit de reprendre le contrôle. On a en tête un certain nombre de personnalités sur la planète qui agitent cette corde-là, Frédéric Douzet.
Oui, je pense que très clairement, il y a une volonté de reprendre le lead sur la narration et de promouvoir son propre récit à son avantage. Et là, les moyens numériques offrent des caisses de résonance qui sont absolument fantastiques.
Alors, quelles sont les réponses dont les États disposent pour se défendre contre les manipulations de l'information ? Là aussi, il y a un aspect que j'ai trouvé tout à fait intéressant, c'est l'accent mis, et ça le fait apparaître comme finalement le cœur de la problématique, c'est l'éducation des citoyens dans l'accès à l'information et la hiérarchisation des sources. Frédéric Douzet, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
L'éducation des citoyens aux médias numériques, je pense qu'elle est absolument essentielle et je pense qu'elle a vraiment commencé puisqu'on voit que parmi les personnes en fait qui sont les plus crédules et les plus facilement manipulables par les théories conspirationnistes, on est plutôt sur un public de plus de 60 ans alors que les jeunes sont conscients de l'existence des soi-disant fake news et des manipulations de l'information et se laisseraient un peu moins piéger par ce type de méthode. Cela dit, je pense qu'il faut insister effectivement énormément sur les risques de manipulation de l'information, de trafic des vidéos, des sons, puisque maintenant on s'approche aussi de la possibilité de faire ce qu'on appelle des deepfakes, qui sont des manipulations d'images et de sons qui sont extrêmement difficiles à détecter. Donc avoir conscience de ces risques est extrêmement important. Développer, encourager l'esprit critique et la remise en question de l'information, encourager à croiser les sources et à les vérifier des informations avant de les propager, je pense que c'est très important. Mais je crois qu'il faut aussi travailler sur les vulnérabilités des sociétés qui sont exploitées par les manipulateurs de l'information. Parce que on l'a vu dans le contexte de la propagande djihadiste, comme on le voit dans les manœuvres informationnelles d'État ou les théories conspirationnistes, c'est sur des vulnérabilités internes à la société qu'on appuie et qu'on cherche à créer la division ou à vendre un récit. En l'occurrence, aux États-Unis, la polarisation politique extrême et la défiance dans les institutions ont été un levier formidable. Dans le cadre de la propagande djihadiste, on a bien vu que le ressentiment d'une partie de la population, le sentiment d'exclusion de certains jeunes en rupture par ailleurs, a été utilisé en insistant sur l'humiliation des musulmans dans le monde, etc. Donc on a cette question des vulnérabilités qui est extrêmement importante.
Alors un commentaire, Maud Kessar, vous souhaitez rajouter quelque chose ? Après ça, je m'adresse à vous. Maxime Audinet.
Oui, c'est vrai que ce qu'on essaie de montrer dans l'ouvrage, en fait, dans les démocraties occidentales, on n'est pas tous égaux devant la résilience et on n'est pas tous égaux devant la capacité de générer de l'éducation aux médias par la culture, aussi parce que nos systèmes éducatifs sont fort différents. Il suffit de prendre certains pays d'Europe et les États-Unis pour s'en rendre compte. Donc là, ce qui est intéressant dans les réponses ou les réactions, c'est qu'aujourd'hui, finalement, les Européens ont l'air un petit peu plus en pointe parce qu'ils arrivent plus facilement à mobiliser leur système d'éducation et leur système culturel pour favoriser la résilience des sociétés. Mais si on regarde aussi ce qui se passe en Asie, les Japonais sont un petit peu plus en découverte de ces phénomènes-là et donc ont un petit peu de retard sur le temps de réaction. En revanche, à Singapour, on a justement une volonté de résilience très organisée, calquée aussi sur les Européens. Donc il y a des nouveaux phénomènes de circulation dans la résistance et la résilience face aux manipulations de l'information. Il y a ces nouvelles vulnérabilités qui transcendent les coupures géopolitiques traditionnelles.
Alors Singapour et Taïwan peut-être également, Maxime Audinet.
Sur Taïwan, alors je suis pas spécialiste, mais là, ce que je peux dire, c'est plutôt sur les actions que la Chine cherche à mener à Taïwan pour des raisons qui sont bien connues, donc cette volonté de réunifier Taïwan à la Chine. Et ce qu'on peut dire de ce point de vue, c'est que il y a une comparaison probablement assez intéressante avec le cadre de l'espace post-soviétique, c'est que Taïwan, comme à une certaine époque l'Ukraine, ou toujours d'ailleurs, sont en fait en quelque sorte des laboratoires de propagation de contenu et d'opérations informationnelles menées respectivement par Moscou et par Pékin. Et ce qu'on observe à Taïwan, et c'est peut-être intéressant parce qu'on a avec Taïwan probablement l'expérience des mutations en fait de l'influence informationnelle de la Chine, c'est qu'il y a eu pendant très longtemps la propagation d'un récit positif sur la Chine avec cette aussi ce qu'on appelle cette logique de front uni, c'est-à-dire essayer en fait de s'appuyer sur les amis du Parti communiste ou les amis de la Chine qui n'appartiennent pas au Parti communiste. Je pense par exemple à la diaspora chinoise ou à Taïwan, aux populations qui sont effectivement pro-Pékin, et à s'appuyer sur ces populations pour propager un discours positif sur la Chine. Et plus récemment, on a eu, dans le cadre de Taïwan, et c'est là que certains chercheurs, je pense notamment à Paul Charon, qui est dans l'ouvrage, parle d'une forme de russianisation, si on peut dire, des opérations d'influence chinoise, même s'il y a énormément de différences dans leurs objectifs, dans leurs récits, mais il y a aussi de la part de la Chine envers Taïwan, de même qu'envers Hong Kong aussi, un passage vers quelque chose de plus corrosif, plus négatif, qui sont menés par exemple en ligne, et je pense à cette base 311 qui se situe à Fuzhou, donc de l'autre côté du détroit, et qui est parfois comparée en fait avec la fameuse Fermatrol de Saint-Pétersbourg, l'Internet Research Agency, et qui en fait est une base donc qui appartient à l'Armée populaire de libération chinoise et qui à partir de laquelle sont menées toute une série d'opérations informationnelles vers Taïwan et en particulier sur les réseaux sociaux taïwanais et pour discréditer son gouvernement, et Taïwan de son côté essaie de se protéger contre ces offensives.
Alors j'aurais aimé, moi, malheureusement on n'aura pas le temps, mais je le mentionne simplement, c'est le continent africain, et c'est souligné dans l'ouvrage, qui se trouve, alors vous avez peut-être quelques mots rapides à dire, Maxime Audinet, là-dessus, qui se trouve aussi au cœur des luttes d'influence par médias interposés, avec les Russes qui sont très offensifs.
Absolument, alors la Russie... depuis un certain nombre d'années, reprend position après avoir perdu position sur le continent africain à la chute de l'Union soviétique. Et effectivement, parmi toute une gamme d'outils économiques, d'outils, on a beaucoup parlé des mercenaires du groupe Wagner, mais il y a aussi tout un flanc informationnel qui est utilisé à travers des médias, à travers aussi... des conduites d'opérations informationnelles menées plutôt par ces services de renseignement. Et puis, il y a aussi, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, cette question de la sous-traitance aussi par la Russie d'opérations informationnelles sur le continent africain. Il y a eu un cas qui a été mis en avant par l'agence Grafica récemment d'une ferme à troll au Ghana, par exemple, dans la banlieue d'Accra, qui est financée en fait, qui serait en tout cas financée par le célèbre Yevgeny Prigojine, qui est ce cuisinier de Poutine, homme d'affaires et sponsor de Wagner, et puis de ces fermes à troll. Et ce qui est intéressant, c'est que Prigojine incarne ce que certains appellent des entrepreneurs géopolitiques, qui en fait mènent des actions, en particulier sur le continent africain, je pense aussi à la Centrafrique, comme des laboratoires aussi pour perfectionner un certain nombre d'outils avec une dimension assez opportuniste pour finalement aussi montrer des gages de loyauté au pouvoir en montrant qu'ils sont capables, à travers des aventures, si on peut dire, géopolitiques, de mener des opérations informationnelles. Et le continent africain est, je crois, un très bon exemple.
Alors, l'Union européenne, Maud Kessar le disait, est assez en pointe, en tout cas peut-être plus en avance que les autres dans les outils de lutte contre les manipulations de l'information. Frédéric Douzet, est-ce qu'on pourra jamais parvenir à un consensus international en vue d'une régulation pour contrer les manipulations, avec tout ce qu'on a dit, hein, finalement, et voilà, cette espèce de combat entre régime autoritaire et démocratie, les démocraties étant particulièrement visées par ces guerres de l'information, et quelle place finalement, et ce sera la conclusion, pour le droit international ?
Alors, en fait, ça dépend si on se focalise sur la question des acteurs, sur la question des méthodes ou sur la question des contenus. Si on se focalise sur les acteurs, le droit international va traiter le cas des acteurs étatiques, d'où le problème des entrepreneurs d'influence que mentionnait Maxime Audinet, qui ne sont pas couverts par le droit international. Et pour l'instant, le droit international comme réponse est assez peu mobilisé parce que ça sous-entend d'identifier, d'attribuer juridiquement une opération à un État, de la qualifier. Donc il se heurte finalement aux mêmes difficultés qu'on peut rencontrer dans le cadre de la lutte contre les cyberattaques. Ça repose sur les mêmes piliers, c'est-à-dire la capacité à détecter une opération, à savoir qui est derrière et pourquoi, démontrer son caractère coercitif et puis à trouver des leviers pour y réagir. Mais c'est une possibilité de dire bon ben cette opération était une opération hostile et c'est finalement le début de réponse qu'a fait l'administration Obama en prenant des contre-mesures, en qualifiant juridiquement l'ingérence russe dans le processus électoral de 2016. Donc ça, c'est un levier d'action. Le deuxième se focalise sur les méthodes et c'est finalement celui dans lequel les plateformes sont les plus à l'aise puisque ça revient à identifier des comportements qui posent problème, qui sont des comportements coordonnés, considérés comme non authentiques, avec des faux comptes, avec des botnets, sur lesquels les plateformes peuvent agir. Et l'un des problèmes actuellement, c'est qu'elles agissent en rendant assez peu de comptes à la communauté, donc de leur propre chef et sans grande transparence. Et enfin, il y a la question de la régulation des contenus, qui est un terrain extrêmement glissant, puisqu'on a un certain nombre d'États, notamment la Russie et la Chine, qui revendiquent depuis très longtemps dans les discussions sur la régulation du cyberespace, de pouvoir réguler de façon souveraine les contenus qui circulent sur l'Internet. Et ça s'oppose à un discours de liberté d'expression, de respect des droits de l'homme tenus par les États occidentaux. Donc c'est une discussion très compliquée et c'est un terrain glissant en matière de discussion internationale. Néanmoins, l'Union européenne a pris l'initiative du Digital Services Act en insistant sur ce qu'étaient des contenus illégaux du point de vue de l'Union européenne. Donc il y a quand même certaines classifications de ces contenus illégaux et en demandant que les plateformes les suppriment dans un délai relativement rapide, expliquent quels contenus étaient supprimés et donnent les raisons de leur suppression et puis soient plus transparentes dans le classement des contenus.
Merci Frédéric Douzet. En tout cas, en guise de conclusion, et pardon parce qu'on manque de temps pour dire beaucoup d'autres choses, la guerre de l'information, les guerres de l'information permettent, on l'a compris, de brouiller un peu plus les limites entre guerre et paix et entre victoire et défaite. Merci Frédéric Douzet. Donc je rappelle que vous êtes professeur des universités à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8 et directrice du projet géopolitique de la datasphère GEODE. Maud Kessar, directrice du domaine Espace Euratlantique à l'IRSEM, maître de conférence conférence et spécialiste de politique étrangère américaine et co-directrice pour ce qui nous intéressait aujourd'hui avec Céline Maranger, des guerres de l'information à l'ère numérique, paru aux presses universitaires de France. Merci aussi Maxime Audinet, chercheur à l'IRSEM, spécialiste de la politique d'influence russe à l'ère post-soviétique. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À demain.